Après, je me propose dans la première photo de multiplier le financement sur
une maladie d'employé de Holocauste. Et d'une part, le mot de Holocauste ne traduit en rien le terme de Shoah, mais surtout du véhicule, en tout cas en français, et probablement aussi dans les autres langues qui ont adopté, d'une conception de l'événement qui est, si j'ose dire, qui introduit subrepticement une conception absolument étrangère à la tradition et à la sensibilité juive de ce qui s'est passé. Le terme de Shoah se trouve dans les politiques, dans la Bible, dans chez les prophètes, dans le livre de Psaume, dans le livre de Job, aussi dans le verset des Proverbes, et le terme de Shoah signifie catastrophe. Catastrophe dans le sens d'un événement plus que péripétie qui met en question la signification de l'histoire, la signification des histoires des hommes, et en particulier qui interpelle dans un défi extrêmement profond la signification même de l'histoire juive. J'aurai l'occasion dans une des communications de cette semaine, du début de la semaine prochaine, d'essayer et d'aborder moi-même le problème, le sujet, sous forme de point d'interrogation de ce que serait une signification théologique de cet événement avec un grand E. Mais vraiment sous forme de point d'interrogation. Il y a eu, depuis le temps, de ce temps, il y a eu une extrême pudeur du point de vue de la tradition juive d'en parler du point de vue d'une tentative d'explication, car lorsqu'on est contemporain d'un tel événement, toute explication risque de véhiculer aussi et ne serait-ce qu'un relent de justification. C'est ainsi qu'est faite l'intelligence humaine d'expliquer risque, en harmonique en tout cas, en harmonique diabolique, d'introduire une notion de justification. Mais nous avons pensé, étant donné que depuis quelques années, déjà des textes paraissent, et non seulement dans le monde juif, c'est surtout en Amérique, mais aussi et parfois de façon orientée dans le monde chrétien. J'ai sous les yeux une revue dont je parlerai plus abondamment lundi prochain, qui est éditée il y a quelques années, en 1974, par le Service international de documentation judéo-chrétienne, édité à Rome, et qui n'hésite pas, j'ai oublié le titre, à intituler cette recension d'articles l'Holocauste. Et voici comment cela est introduit. Par quelques versets de la Genèse. Il arriva que Dieu éprouva Abraham, vous reconnaissez le thème de ce texte, et lui dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. Je dirais simplement ce soir à ce propos qu'il y a, je n'ose pas employer de termes trop violents, mais qu'il y a une inconséquence à citer ce passage de la Akedah d'Itsrak, du sacrifice, entre guillemets, Akedah n'est pas non plus traduit par sacrifice, d'Itsrak, parce qu'on oublie ou enfin oublié que le sacrifice d'Isaac n'a pas eu lieu, et qu'en conséquence, il n'y a aucun rapport d'analogie avec ce dont nous avons à, traiter. Avant de céder immédiatement la parole à Manès Ferber, que, encore une fois, on n'a pas à présenter, je voudrais quand même dire l'affection et le respect des générations de contemporains du temps de sa vie. Je ne sais pas si on peut dire qu'il est notre contemporain ou nous sommes son contemporain, ses contemporains. Et nous l'avons toujours considéré depuis ce temps-là comme un de nos grands frères, parce qu'il a pu traverser avec tellement de profondeur, de tumulte, le temps de ces événements, mais il l'a traversé avec une sensibilité restée pure. Et j'aurai la tentation de vous donner un certain nombre de repères historiques et bibliographiques, je ne le ferai pas, simplement je rappellerai que Manès Ferber était originaire d'Autriche, qu'il a passé son adolescence à Vienne, qu'il a milité à la Chambre d'Azaïr, qu'il a été un des collaborateurs les plus proches du grand psychologue Adler, qu'il a occupé des chaires très importantes, qu'il a été relié au Parti communiste autrichien dans son adolescence, qu'il a ensuite quitté, et qu'il a une longue carrière où donne deux témoignages et a laissé et nous laissera des messages importants et pour le temps présent et pour le temps à venir. En réfléchissant à cette soirée, je me suis souvenu d'un enseignement du Midrash concernant le modèle du rescapé des catastrophes qui est Noach, Noé en français. Le verset qui introduit l'histoire de Noé a une particularité que le Midrash a mis en évidence. J'ai eu le privilège de connaître depuis ce temps du nazisme des grands hommes d'Israël, du peuple juif, qui nous ont aidés à comprendre le témoignage que donne ce Midrash. Le premier verset qui introduit l'histoire de Noé comporte trois fois le mot Noach. Elle est autour de Noach. Noach, Tzadik, Tami, Maya, Bedrota, et Taïrotim, Itarech, Noach. Et le Midrash dit que Noach a connu trois temps. Le temps d'avant le déluge, le temps du déluge, et le temps d'après le déluge. Et que dans ces trois temps, il était Tzadik. Et ce sont trois manières différentes de pouvoir perpétuer l'authenticité humaine dans ces trois époques de nature aussi différentes. Avant la catastrophe, pendant la catastrophe et après le reste. C'est donc à nous dire un peu de son témoignage ce soir que je cède la parole à Vanessa.
Mesdames, Messieurs, j'espère que vous m'entendrez bien. J'essaierai de parler aussi fort et aussi net et distinctement que possible. Et si je m'oubliais, je vais parler trop vite. Faites-moi signe d'une façon ou d'une autre, j'essaierai de retrouver le bon chemin. Je suis très reconnaissant de tout ce que la Chérie vient de dire à mon sujet, mais à moi aussi très content de l'avoir réfuté et réfugié le mot holocauste que pour ma part, je n'ai jamais utilisé, je n'utiliserai jamais. Précisément parce qu'il y a dans ce mot grec le sens, la signification et des sacrifices. Ce qui nous est arrivé dans la Shoah, ou moi je préfère plutôt dire Khurban, mais même pour l'autre de ces termes sont tout à fait acceptables, ce qui nous est arrivé donc n'était un sacrifice ni actif, ni de la part de ceux qui l'ont assassiné, ni de la part de ceux qui en sont morts, notre peuple d'Europe orientale, centrale. Central, en un mot, nous trouvons devant cette catastrophe indicible comme devant un événement qui, au fond, n'entre dans aucune des catégories d'une histoire aussi riche en catastrophe qui est la nôtre. C'est un phénomène neuf, il est d'ailleurs aussi jusqu'à un certain degré neuf dans l'histoire de l'humanité. Pour donc commencer tout de suite, je dirais, c'était la première fois des arrivées sur terre chrétienne que les chrétiens ont tué des juifs sans se réclamer de Jésus ou sans prétendre vouloir venger sa mort sur ceux qui l'ont crucifié. Mais aussi, et cela est vraiment le point de litige entre des gens qui pensent comme moi et tant de mes amis, étant d'autres juifs et non-juifs, c'était la première fois que les juifs sont morts, sans avoir choisi de mourir pour leur foi, de mourir en témoignage d'une fidélité qui leur apportait plus que la vie. Ce qui est arrivé tant de fois dans notre histoire, notamment depuis la destruction du temple, du deuxième temple, c'est-à-dire être mis devant le choix où tu vivras non-juif, où tu mourras juif. Il y avait donc chaque fois une résolution qui a décidé de l'existence du peuple juif. Nous sommes là, juifs ici, parce que nos ancêtres, devant ces alternatives, avait en grande partie préféré mourir que de s'incliner devant les idoles des païens ou devant la croix. Ceux qui sont morts entre 1900, sur 30, 40 et 45, n'ont pas eu le choix, même s'ils avaient déjà juré leur foi, ils devaient mourir parce qu'ils étaient nés juifs. Et cela était défini non pas comme une croyance, mais comme un fait racial. Cela est neuf, comme je dis dans l'histoire, bien que l'on puisse, qu'on pourrait plutôt et l'appeler le fait que lorsque les Juifs s'étaient convertis en Espagne après l'expulsion, ils étaient soupçonnés de ne pas être sincèrement chrétiens. Et on a introduit le terme d'Hidalgo qui voulait dire un chrétien fils du petit fils du chrétien. Par conséquent, les paragraphes ariens existaient aussi en Espagne, une fois même que la décision avait été prise par les uns de s'exiler plutôt ou de mourir s'il fallait absolument que de abandonner la foi des ancêtres ou les autres qui l'avaient abandonné, mais mais tout devait souffrir du fait qu'ils étaient sortis des ventres juifs. Néanmoins, c'était tout de même à notre temps, c'est-à-dire entre 1940 et 1945 notamment, que un peuple, le peuple juif, mais on peut dire le peuple yiddish, notamment, est mort ainsi. On ne l'avait pas offert une alternative, on l'avait humilié, désarmé complètement et après liquidé, assassiné. Vous savez, peut-être quelques-uns parmi vous savent qu'il y a de cela 26 ans, j'ai écrit un chapitre d'un de mes romans qui est publié à part et sous le titre d'une âme dans l'océan. Alors, j'ai été amené à écrire ce livre, de cette façon, c'est mon seul livre juif, du thème juif essentiellement, parce que je souffrais à l'idée que les nôtres sont allés à la mort sans se défendre, sans se battre. Dans ce livre, je démontre que même lorsqu'ils se battaient, ils devaient découvrir que c'était insensé, puisque ce n'était pas seulement les persécuteurs officiels en quelque sorte, mais aussi les peuples qui les entouraient, qu'ils avaient condamné à mort. Les combattants de ces groupes de juifs résistants, et ils mourront presque tous de la main de leurs alliés. Depuis lors, cette question ne me torture plus parce qu'elle m'avait torturé pendant des années. Parce que c'était après, lorsqu'ils avons tous su ce qu'il y avait à savoir, nous avons compris qu'en effet même des millions d'hommes en âge de porter des armes, et des, par exemple les prisonniers russes en Allemagne, ne se sont pas défendus, ils n'ont pas résisté, ils ont été traités aussi, d'une façon aussi humiliante, et finalement, en effet, ils ont été en grande partie détruits, et sans se défendre. Les autres ne sont pas défendus par les Juifs non plus, notamment lorsqu'ils n'avaient pas des armes et les Juifs en Pologne, dans les camps, n'avaient pas des armes. Donc ce n'est plus cette question que ne ressemblait pas à ceux de Masada ou à ceux de Jérusalem en face de Titus. C'était la question plutôt de comment est-ce qu'ils ont pu garder un espoir et pour cet espoir accepter de descendre plus bas et plus profond que la vie pour finalement tout de même mourir une mort qui semblait les humilier nous autres, les survivants. Mais comme je vous le dis, j'ai saisi cette première occasion pour le dire et je ne le crois plus. Je pense que leur manière de vivre, de supporter, de souffrir et d'espérer était finalement encore la façon la plus digne ou la moins indigne du passé de notre peuple. Cela était plutôt une remarque à bas de page, je retourne au sujet proprement dit. Eh bien, le fait est qu'entre les deux guerres, les peuples juifs avaient d'abord connu une émancipation plus large qu'auparavant. La chute du tsarisme, la liberté, la libération des nombres des petits peuples de l'Europe orientale et centrale avaient amené, pas tout à fait, pas dans tous les domaines, tout de même, une émancipation des juifs presque semblable, ou réellement semblable à celle que les juifs de France ont connue, aussi d'Allemagne, aussi d'Autriche, d'Angleterre. Or, c'est le processus d'assimilation qui avait commencé au début du siècle dernier, qui avait été interrompu à plusieurs reprises, par exemple en France, en partie par l'affaire Dreyfus. Ce processus d'assimilation s'est accéléré entre les deux guerres, et en même temps, il y avait pourtant un mouvement, au contraire, des prises de conscience juive sous forme de sionisme et une prise de conscience nationale. Mais ni cette prise de conscience nationale, ni même les actions considérables, bien que dans une envergure plutôt limitée, des Juifs qui étaient allés en Israël et qui ont commencé à redimer la terre par leur travail, ni rien de tout cela n'a réellement ralenti l'assimilation. En réalité, l'assimilation s'est accélérée entre ces deux guerres. Ce qui avait entre autres pour effet ceci, les Juifs d'Allemagne, d'Autriche et d'autres pays menacés directement par l'hitlérisme à partir plus tard de 1930. Ni les Juifs, d'ailleurs, n'ont réellement voulu saisir l'immense danger qui avait commencé à naître plus tard en 1930 et qui allait en grandissant de jour en jour. Je pense qu'on trouve dans l'histoire du monde, dans l'histoire de toutes les nations, des phases d'un aveuglement extraordinaire, presque inexplicable. D'ailleurs, on trouve de cela aussi dans la vie des individus, dans la biographie de presque tous les humains. On trouve des phases, c'est vrai, au contraire, c'est étranger, où ils sont préférés l'aveuglement, ce que j'appellerais l'ignorance praticable à la connaissance, à l'intelligence et à la vérité. En tout cas, et sans vouloir exposer ici plus longuement, je voudrais insister sur le fait que nous étions tous avertis. Très tôt, et pas seulement par le livre de Mein Kampf, où tout avait été déjà projeté, mais tout ce que nous avons vu aurait dû nous avertir. Or, le fait est qu'il y avait en Allemagne des Juifs qui, jusqu'à 1935, 6, 7, 8, jusqu'à la nuit du cristal, c'est-à-dire des pogroms, des premiers pogroms réellement organisés en Allemagne après cet attentat de Grünspan sur un employé consulaire d'Allemagne ici. Jusqu'alors, il y avait des milliers de Juifs allemands qui pensaient que tout compte fait, ça ne pourrait pas empirer que on trouvera et on était en train de trouver un modus vivendi et qu'après tout cela, on devait patienter un an, 3 ans, 5 ans, et alors le cauchemar sera fini. Les Juifs de Pologne, un peuple de 3 500 000 hommes, femmes et enfants, un peuple très conscient de lui-même, de sa force. Ce peuple voisin d'Allemagne a tout vu. Il était au courant de tout ce qui s'est passé en Allemagne, de toutes les menaces. La presse juive, yiddish, hébreu ou polonais, les polonais donnaient chaque jour une idée très précise de ce qui s'est passé, de ce qui, en effet, se préparait contre eux. Ils n'ont pas bougé. Les Juifs d'Amérique, les Juifs de France, savaient évidemment et pensaient exactement comme les Juifs d'Allemagne que tout ça c'était passager qu'il fallait voir et que de toute façon, ça ne doit pas être si terrible qu'on l'annonçait. Je veux dire par cela que la première foi des uns comme des autres, ceux qui devaient prendre des décisions pour se sauver et les autres qui auraient dû tout faire pour leur permettre de se sauver, pour leur rendre possible de se sauver, auront été pratiquement comme immobilisés. Et quelques milliers ou même dizaines de milliers de Juifs, notamment d'Allemagne et d'Autriche, qui sont en fuite, et l'ont fait parce qu'ils étaient économiquement plutôt du côté des plus forts, ils avaient des moyens, ils avaient des parents qui pouvaient les aider. Les peuples, et notamment en Pologne, mais aussi en Allemagne, les peuples, même s'ils avaient reconnu les dangers, le fait est qu'il fallait partir, mais il n'y avait pas où aller. Or, je pense que, à l'époque, et disons, au début du temps moderne, au Moyen-Âge, lorsqu'il y avait quelque part dans la Méditerranée des Juifs parmi ceux qui avaient été captifs chez les pirates de l'Afrique du Nord, les premiers à libérer, c'était des Juifs. Quel peu importe qu'ils étaient, si on connaissait leur origine, il suffisait qu'ils étaient juifs, il y avait un comité d'épidiote, un comité de rançon qui immédiatement achetait leur liberté. Les peuples juifs du monde entier auraient pu acheter la liberté des juifs d'Europe centrale et orientale, c'est-à-dire auraient pu acheter auprès, disons, des États de l'Amérique latine d'innombrables visages pour ouvrir une porte par laquelle ils auraient pu entrer pour attendre en dehors du lieu du danger mortel. Ça n'a pas été fait. Pour la première fois dans l'histoire du peuple juif, ce réflexe de solidarité qui avait réellement sauvé chaque part de nouveau des juifs, ce réflexe est presque paralysé. En tout cas, il s'est ressenti de temps en temps et jamais à une manière, une mesure suffisante. Cette préface que je vais terminer veut dire simplement les gens n'ont pas, les Juifs n'ont pas choisi de mourir pour leur Dieu, pour leur foi, il n'y avait pas une alternative. Mais avant cela, ils n'avaient pas voulu voir la vérité et les autres qui auraient pu les sauver ne les ont pas sauvés parce qu'ils préféraient de ne pas voir la vérité. Je pense qu'ils sont donc devant ce qu'on peut appeler le problème des pathologies nationales, pathologies des groupes humains, des Juifs, entre 1933 et 1945. Donc si on discute de notre catastrophe, je suggère qu'on discute aussi de cela, et cela d'une façon tout à fait brusque, cruelle, sans égard. Et je ne vous dirai pas ce que mon côté, ce que mes sons, tous ces millions d'hommes et des femmes enfants qui sont morts, mais je ne pense pas sentimentalement à eux, parce qu'il ne s'agit pas de cela. Ce que je sens, c'est en moi. Je l'exprime par ici, par là, et je me suis employé à ne jamais l'exprimer d'une façon sentimentale. Mais nous avons devant nous un problème qui pourrait devenir de nouveau un problème. Je ne dis pas que je suis pessimiste, mais je dis que c'est un problème. Je devais parler ici, je dois parler de l'aspect politique et moral de le choix. Je veux parler notamment de ce que est le monde juif politiquement, moralement. Et le monde non juif politiquement, moralement, toujours en rapport avec tout ce qui est arrivé dans les années de la Shoah à 13 ans. Commençons d'abord par les autres. C'est évident, mesdames, messieurs, mes amis, que l'ange décrit un disciple dans notre peuple, puis la victime à des millions. Et ce qui est arrivé aux criminels, il n'y a aucune commune mesure. On peut dire que les morts, les assassinés sont morts sans sépulture, mais aussi sans être rangés. J'ajoute tout de suite que les dossiers des assassins ou des subordonnés qui ont eu part et part à tout ce qui est arrivé dans les camps d'extermination ne semble de peu d'intérêt. On aurait pu penser qu'autant qu'il puisse y avoir jamais une brutalité, disons une justice, alors peut-être j'avais pensé à partir de 43, j'avais pensé rêver un rêve qui était en même temps un cauchemar. Je me suis dit peut-être qu'il faudrait organiser des groupes de jeunes juifs et aller trouver les assassins, les chefs des assassins, les tuer devant leurs maisons, sous les yeux de leurs femmes et de leurs enfants. Comme je dis, c'est un rêve de cauchemar. De toute façon, ça n'a pas été fait. Maintenant, 35 ans après, aller chercher un de ces assassins, qui est maintenant un homme de 60, 70 ans, mettre devant un juge, qu'est-ce que c'est comme réponse à ce qui est arrivé? En plus, et c'est là où je vais en arriver, c'est même que j'ai écrit et répéter, l'antisémitisme nous a fait souffrir depuis des millénaires, mais il n'est pas notre affaire. L'antisémitisme est la maladie, c'est l'affaire des autres, de nos persécuteurs. De même, ce qui est arrivé est une démonstration donc que dans notre siècle, sur cette terre chrétienne, il est possible d'organiser des génocides, de transformer d'innombrables gens simples en pillards, en dénonciateurs, en complices des prophètes les plus terribles, et que cela ne tire pas de conséquences pour eux. Or, un monde qui a vécu cela, une société, une nation qui a vécu ça, disons 10 000 ans en Pologne, Kiev, par exemple, ou après la guerre, on a fait encore un pogrom. Mais les gens se voient, ils savaient ce que chacun d'eux avait fait, plus ou moins. Et ça ne tient pas conséquence. Ils ont changé avant la couleur de la peau. Ça ne tient pas conséquence. Je pense que c'est une extrême gravité pour cette humanité. Évidemment que dire de temps passe, comme je dis, 30 ans, 35 ans, et que pour ceux qui sont jeunes maintenant, de toute façon, cela n'a pas de réalité, ni à Vienne, ni à Berlin, ni à Paris, etc. Mais le fait est que si on reste fidèle, au moins à cette pensée fondamentale du judaïsme qui est de la justice, il faut dire, nous vivons dans un monde où justice n'a pas été faite. Et nous-mêmes, nous ne l'avons pas fait non plus. Il est vrai que tout cela serait en effet insupportable jusqu'à la torture s'il était arrivé quelque chose d'une immense importance. S'il n'y avait pas eu la réponse à tout ce qui est arrivé et la réponse à l'insurrection du ghetto de Varsovie, et cette réponse a été donnée innombrables fois en Israël, par Israël, par le peuple juif de Palestine et après par Israël. Dans ce cas-là, notre existence aurait été extraordinairement dégradée. Moi, je pense, je l'ai senti comme insupportable. Mais, en effet, parce que je parlais avec quelques-uns qui étaient très actifs dans l'activité souterraine clandestine en Palestine britannique, et je lui ai dit, alors après la guerre, pourquoi est-ce que vous avez les talents, pour ainsi dire, la capacité, l'expérience, les actes clandestins terroristes, pourquoi est-ce que vous n'avez pas pensé d'aller en Allemagne, en Pologne, en Autriche, en Hongrie, et donner des exemples de cette justice, pour que ça soit rappelé au centre de leur pays ce qui est arrivé et que nous ne sommes pas là pour être chassés comme un chimie sans autre chose. La réponse était dans la plupart des cas, nous avions d'autres choses à faire, les plus importantes. C'était, par exemple, préparer la guerre d'indépendance que nous avons dû mener et répéter, et qu'ils n'ont pas cessé de devoir répéter ou préparer. C'est évidemment tout. Donc, politiquement, l'aspect politique de l'après-Shoah est d'une part, la chose la plus importante, c'est certainement l'existence d'Israël. Et même ceux qui n'ont rien fait pour protéger les colonies palestiniennes contre les Arabes, les assauts d'Arabes avant la dernière guerre et pendant la guerre, ceux qui n'étaient pas là pour se battre pour l'indépendance d'Israël, pour la solitude des fois, même ceux qui disent qu'Israël est là et nous en avons une part, et ne serait-ce qu'en tant que parasite, puisque c'est Israël qui justifie notre survivance, parce que nous sommes des survivants. Cela, je l'admets, et je pense que l'on en parlera pas beaucoup, peut-être aussi pendant la discussion qui devait suivre cet exposé. Mais il y a un autre côté. L'autre côté est que le nombre de Juifs qui soient, qui se sentent réellement héritiers, hérités par les malheurs. Donc, ils vont en rapport, non pas seulement dans leurs souvenirs, mais très conscients que nous avons survécu, nous n'avions pas, absolument pas, plus droit à survivre que ceux qui ne l'ont pas fait. Donc il y a là aussi une injustice, ou alors quelque chose que nous devons mériter post festum. Cela serait un engagement juif très important, pas seulement dans les affaires juives, mais en tout cas, on aurait dû précisément donner, en tant que juif, des exemples à la fois grands et quotidiens de ce que c'est de vivre dans la justice. Évidemment, nous ne l'avons pas fait. Mais, tout de même, il y a le problème, dans quelle mesure est-ce que être héritier de ce malheur a arrêté l'assimilation, l'aliénation, l'éloignement des Juifs de leur judaïsme. Et alors, là encore, sans illusion, à mon avis, les processus de l'assimilation progressent sans cesse. Et je ne sais pas qui pourrait prévoir quand il peut avoir atteint un degré où il deviendra réellement un danger mortel pour l'existence des Juifs en tant que Juifs. C'est-à-dire, ceux qui vivent sont les petits-fils ou les neveux de ceux qui ont été assassinés. Qu'est-ce que ça leur a appris? J'ai pu leur apprendre qu'il faut cacher tout de suite son judaïsme pour que si le malheur se répétait, pour qu'ils ne soient pas tout de suite trouvés et livrés à la persécution, à la mort. C'est une conclusion possible. Ils ont tout de suite, que sauf dans des pays, soit dit socialistes, depuis de l'Europe orientale et centrale, sous le régime des dictatures, sauf dans ces pays où il y avait une telle tentative d'assimilation totale, complète, dans des larges groupes de juifs, ce genre d'assimilation n'a pas réellement été répandu, n'est pas répandu maintenant. L'assimilation a pris une forme tout à fait différente. Il y a peu, relativement peu de conversions. On trouvait rarement des jeunes juifs qui nieraient leur origine. Même si eux ou leurs parents ont changé de nom de famille, et ils n'ignoraient pas, notamment pas envers les juifs, mais aussi ailleurs, qu'ils sont des fils, petits-fils, des petits-neveux des juifs. Néanmoins, tout en donc, se distinguant ainsi de ceux qui étaient les assimilés, comme on les appelait de manière obscène, il y a 50 ans, l'assimilation progresse. C'est-à-dire, dans la mesure même où il n'y a pas une base d'identité haute que celle qui se réclame d'un passé qui s'éloigne très rapidement, par une acculturation à une autre culture que celle du grand-père, dans cette même mesure, il y a le fait que, comme un fait naturel, y a-t-il un éloignement vers nulle part ou vers, disons, tel ou tel peuple, telle ou telle culture, telle ou telle nation. Évidemment, les mariages mixtes sont d'une très grande importance, mais les mariages mixtes ne sont pas une cause, ils sont un effet. L'effet de cet éloignement. Je n'ai pas maintenant, pour que vous compreniez bien, ni contre l'assimilation, ni contre les mariages mixtes. En ce qui me concerne, mon judaïsme est pour moi un fait aussi naturel que pour un Auvergnat et un Auvergnat. Mais si on me demandait, est-ce que je pense que quelqu'un a tort de se réunir du judaïsme, pense que le judaïsme n'est ni une religion, ni une nation. Je dirais qu'il n'y a aucune espèce d'importance à ce que je pense, mais en tout cas, il ne se trouve pas en défaut de logique. Il agit logiquement, mais cette logique est mortelle, risque d'être mortelle. Car, n'oubliez pas, l'assimilation à l'époque de Heinrich Happel en Allemagne, ou de Karl Marx, avait deux phrases dans les conséquences immédiates. L'un, Heinrich Heine, le grand poète, avait dit cyniquement, je me convertis pour avoir un billet d'entrée dans la civilisation européenne. Il n'a jamais nié son origine et il lui est arrivé de plus en plus souvent de glorifier les judaïsmes. Karl Marx est converti après son père, a en effet essayé de nier tant qu'il pouvait, même parce qu'il s'agissait d'une remarque dans une lettre privée, et nier son origine, bien qu'elle était vraiment très difficile à cacher, et il aura écrit, jeune encore, un des livres les plus absurdement antisémites qui existent dans la littérature, ô combien riche, et la haine des juifs. C'est celle qui était partie pour le 19e, pour le début, pour jusqu'au milieu de ce siècle. Le fait est donc que, sous l'aspect politique et moral, la Shoah n'a pas eu l'effet de lier les descendants, et les, je l'appelle les héritiers donc, de la Shoah, de les lier davantage au judaïsme. Cela est arrivé, il y a bien des cas. Cela est arrivé, mais en majorité, la majorité, on peut dire que la Shoah n'empêche pas seulement pas l'assimilation, mais l'état de choses tel qu'il s'est établi depuis lors, dans les 43 ans depuis la fin de la guerre, en effet, favorise l'assimilation, même dans les pays où les judaïsmes sont bien organisés, comme par exemple les États-Unis. Pour ce qui est maintenant la réussite ou l'échec de cette assimilation, jusqu'ici l'assimilation était un échec, peut-être partout en Europe de toute façon. il y avait des cas singuliers où il y avait où l'assimilé ou l'assimilant, comme on disait, réussissait à s'éloigner et ne plus laisser des traces visibles. Mais de façon générale, les cas de Heine, comme celui de Marx, qu'on avait nommé que celui d'eux, dans des cas qui étaient notamment dans ce qu'on appelait l'épidémie des hépatites, des conversions en Allemagne à la fin du siècle dernier, et à la Vienne, tout cela était tragique. Il finissait d'ailleurs très souvent tragique. De cela, il n'est pas question, non. Non pas que les autres soient plus tolérants, mais parce qu'il y a une situation sociale, politique, culturelle, qui fait que, au fond, c'est tout à fait naturel que les fils de quelqu'un qui était venu comme ouvrier sans qualification à France, disons, en 1930, soit maintenant un intellectuel français de haute qualité, grande formation, parfaitement intégré dans la science ou dans l'industrie, dans l'administration de ces pays. La question de loyauté ne se pose pas pour lui. Il est évidemment heureux d'être là et être celui qu'il est, je pense être. Par conséquent, on peut dire d'apparence, tout ça aboutit, comme il arrive souvent après des terribles orages, des matins, des soleils se lèvent, des ciels bleus comme si jamais un seul nuage n'avait couvert, et il semble que on peut penser qu'on s'est trompé, qu'on a eu un cauchemar. Est-ce que c'est là la situation pour les Juifs? Je dirais oui ou non. Pour les Juifs, j'ai déjà donné quelques indications. Pour les non, je pense que l'antisémitisme n'a pas du tout diminué. Je pense que l'antisémitisme continue à dominé, non pas d'une façon passionnante, mais presque comme une chose allant d'elle-même, de dominer l'esprit de la plupart des non-juifs. C'est parfois même pas un antisémitisme dans le sens de l'anti-judaïsme, c'est parfois un genre de xénophobie, c'est parfois un mélange de motivations qui sont dans le phénomène de l'antisémitisme, comme peut-être dans le phénomène de l'anti-arménisme, dans le phénomène des Chinois en Vietnam ou en Indonésie. Donc cela n'est pas lié à la religion, c'est lié à la volonté de deux traditions, dont la tradition de la minorité qui devait s'assimiler, semble être tout de même si forte encore qu'elle résiste, fait résister cette minorité et l'empêche vraiment de s'assimiler à la majorité. Je pense donc que lorsque je suis en Israël et j'entends mes amis, certains de mes amis parler comme si ils avaient peur, ils avaient peur qu'un malheur pourrait nous arriver ici à cause de l'antisémitisme. Et j'ai toujours le sentiment qu'ils se trompent terriblement. Alors je commence par les dire, non, ce n'était pas question, nous ne sommes pas persécutés. Vous ne sont pas aimés par tous, mais vous n'aimez pas vos voisins, tous vos voisins non plus. Voilà. Ce n'est pas d'argument. Nous ne sommes pas en danger, non. Demain ou après-demain, je n'en sais rien. L'antisémitisme est flou, notamment dans un pays comme la France. Si vous lisez les journaux intimes des plus grands écrivains français, vous trouvez l'antisémitisme incroyable, mais si vous avez eu la chance d'être et souvent voir dans le même salon, même pratique, et vous n'avez pas la même vérité que vous êtes antisémite. Donc ça va de pair, il y a une discrétion, un antisémitisme très discret, comme ils sont discrets dans d'autres choses. Donc il est réel, je dis. Oui et non, je ne suis pas tout à fait sûr, mais disons ceci. S'il n'y a pas une conjoncture particulière qui fait qu'ils commencent à agir contre leurs voisins juifs, alors ça peut durer longtemps et les juifs, les jeunes juifs, ceux qui commencent sa vie dans un hospice très favorable, ne s'apercevra de rien. En tout cas, ne s'apercevra pas s'il y a quelque chose en lui qui les sépare d'eux. Et c'est là que j'ai un problème. la possible, la difficulté. Si Hertz avait raison, Hertz qui était un peu historique en vérité, bien qu'il soit devenu une figure représentative dans la légende de la Renaissance juive, mais lui avait donc dit, nous sommes des juifs parce que nos ennemis nous passent des temps de conscience de notre judaïsme. Quiconque parle, qui écrit des choses pareilles, s'est trompé. En vérité, nous avons été pendant des millénaires de juifs parce que nous avions choisi de l'être. Il y avait le choix, chaque fois de nouveau. Chaque fois, nous avons, la plupart des familles, nous avons choisi d'être juifs. Pour des raisons qui étaient les nôtres. Et la raison s'appelait, par exemple, alors que je le fais passer aussi rapidement que possible. Par conséquent, je dirais, après avoir tourné autour de ces problèmes, je dirais, les malheurs à rappeler à beaucoup de juifs qu'ils l'étaient. Mais pas durablement, c'est-à-dire pas pour les générations qui suivent, qui ont commencé à suivre depuis leur part, pas parmi ceux qui ont aujourd'hui 30 ou 35 ans, ou 40. Et je dis que même l'intérêt pour Israël, l'intérêt actif pour Israël, beaucoup de ces jeunes gens montrent, soit en tant que touristes, soit à d'autres moyens, d'autres façons, même cela n'est pas en contradiction avec les progrès de la civilisation